L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strate, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous écoutez L'Épluche Livre pour cette seconde émission consacrée à l'écologie du livre. Nous avons abordé la semaine dernière ce sujet ô combien central en compagnie de Fémo, autrice et créatrice d'une BD 100% compostable. L'autrice a partagé alors sa passion et ses réflexions autour d'une production durable et réfléchie dans le livre et dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, ce sont les écologistes de Lezière qui sont invités à s'exprimer au micro de Divergence FM.
P.com. Pas mal les petits fours. Vous avez des nouvelles de Pierre ?
Pierre est parti pour le Pérou, par le pétrolier de Poitou. Pour payer son passage, il a pris dans l'équipage un emploi.
Il pêche du poisson sur le pont, 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 pour compléter les provisions.
Romain Meunier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au micro de cette émission aujourd'hui. Vous êtes éditeur aux éditions de l'Association des écologistes de Lezière. C'est bien ça ?
C'est bien ça.
Est-ce que vous pourriez nous présenter cet asso ?
Oui, alors en fait, c'est une association qui est assez ancienne maintenant, qui existe depuis 1974, et dont l'édition est une toute petite partie de l'activité.
D'accord.
C'est une association qui avait été montée par des chercheurs en écologie scientifique de l'Université de Montpellier donc dans les années 70, dans cette logique un peu d'aller au contact des gens. Leur idée, c'était en fait, il faut qu'on sorte du labo pour aller faire de l'écologie dehors, avec les étudiants et avec le public en général. Et donc, ce qui est le fondement de cette association, c'est l'écologie, pas au sens est-ce qu'il faut trier ses déchets, mais vraiment au sens le fonctionnement écologique du monde.
D'accord.
Et comment on l'explique au plus grand nombre, donc du coup, par, notamment par les livres, mais pas que, ça peut être par des animations auprès de tout type de public, par de l'expertise aussi un peu scientifique, etc.
D'accord. Donc, vous êtes sur la direction de la partie édition, c'est bien ça ?
Ouais, direction, c'est un grand mot, mais
c'est un grand mot.
Donc, je m'occupe de la partie édition.
Oui. Ouais. Et depuis quand cette partie édition existe-t-elle ?
Alors... La date précise, je ne saurais pas dire, mais donc ça a été assez rapidement après la création de l'asso où cette idée est venue de, en fait, il y avait la nécessité, ou en tout cas l'envie plus que la nécessité, de aussi passer par ce média-là du livre pour pouvoir toucher un public aussi, pour pouvoir raconter aussi des choses sur l'écologie à travers ce média-là parmi d'autres. Il y a beaucoup, en fait, nous on fait beaucoup de terrain, c'est-à-dire qu'on va beaucoup voir les gens, emmener les gens dehors, c'est ça vraiment l'idée. Et après, l'idée, ça a été aussi de prolonger ça par le livre, avec toujours des livres dont l'intention, on apprend des choses dedans, mais c'est que ça nous pousse aussi à aller dehors et à aller voir le vivant, comment il fonctionne en vrai, qu'est-ce qu'il a de merveilleux. Et là, c'est, le but, c'est pas d'apprendre rien qu'en bouquinant, c'est vraiment d'aller s'immerger dehors, quoi. C'est
ça, d'accord. L'idée. Et comment ça fonctionne, une maison d'édition associative, ça ? Fonctionnement un peu particulier, il y a des consensus, des votes.
Ouais, ce que ça a de particulier, c'est que moi, du coup, sur l'association, on est plusieurs salariés, mais moi, je suis le seul salarié qui m'occupe de la partie édition. Après, il y a des animateurs, des experts naturalistes, etc. Et après, vu que c'est une association, il y a aussi des bénévoles. Et donc, on a une commission édition, donc de bénévoles qui sont volontaires pour ça. Et du coup, on se réunit régulièrement et sur le choix, par exemple, des sujets qu'on va traiter, de quel livre on va faire, eh ben, on en discute ensemble. Ils interviennent parfois sur l'écriture. Souvent, il y a pas mal de bouquins qui sont en écriture collective.
D'accord.
Puis ils interviennent sur les réécritures, les formats, etc. Et souvent, d'ailleurs, on a peu de livres qui sont un auteur extérieur qu'on va publier tel quel. Et d'ailleurs, parfois, ça peut poser pas problème, mais ça peut être compliqué des fois quand des auteurs viennent en disant bah, « Moi, j'aimerais bien publier chez vous tel bouquin. » C'est que nous, en fait, on publie jamais un bouquin tel quel. Il y a une intervention, en fait, de la commission édition qui est très forte, parce qu'il y a envie de raconter quelque chose que nous, on a envie de raconter, quoi.
Ok. Et vous arrivez à trouver des solutions avec ces auteurs ?
Oui, oui, c'est plus ou moins, après c'est tout le charme de l'édition, donc c'est plus ou moins compliqué selon les profils, mais en général on s'y retrouve. Ouais.
Et donc vous avez un réseau de libraires en Occitanie ?
Ouais.
Mais pas que ?
mais pas que. En fait, on a pas mal de bouquins qui sont sur vraiment l'exploration des paysages méditerranéens, parce que c'est ça notre domaine, disons, de compétence la plus pointue, notamment sur la garrigue, parce que ce qui a été aussi l'origine un peu de l'association, c'était de donner de la visibilité à ce territoire-là de la garrigue qu'on traverse quand on va de la mer à la montagne, mais on ne s'arrête pas parce qu'il n'y a rien à voir. Et dire, en fait, si, il se passe plein de choses. Pas trop de moustiques, c'est plutôt plus vers la mer. Il y a plein de choses à voir en garrigue, c'est un territoire qui est très riche en termes de biodiversité, etc., et puis d'usage humain et tout. Donc on est assez pointu là-dessus, ce qui fait que ça fait une diffusion relativement locale. Mais après, on a aussi des livres qui ont une destination plus générale, plus nationale. Donc on distribue un peu partout en France.
Ok. Et donc, si je vous parle du sujet de la précédente émission, donc cette BD qui est 100% biodégradable, qui a pour but d'être à terme compostée, qu'est-ce que ça peut réveiller en vous ?
Alors moi je trouve ça d'une part rigolo comme idée. Après c'est intéressant dans l'approche de comment c'est quoi l'impact matière en fait de ce qu'on produit en termes de livres. Moi je dirais que pour nous c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens de faire un livre comme ça, puisque c'est l'approche un peu inversée on pourrait l'avoir approche du livre complètement inverse, qui est en fait le livre est un objet durable et donc son but est d'être pérenne dans le temps. Nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est des livres qui ne sont pas périssables.
Oui.
Et qu'on peut, qui restent, même si, les connaissances évoluent, le style aussi, parfois graphique, peut dire comment ça fait vieux et les gens qui ont envie de le lire. Mais après, que sur le fond, ce soit des livres qui puissent durer sur un temps très long.
L'objet étant un livre mémoriel par excellence, selon vous ? Oui.
Oui, mémoriel, je ne sais pas forcément sur des externes, parce que ça me fait plus penser à quelque chose d'un peu mort.
de mémoire, de transmission peut-être.
De transmission,
plutôt.
Ouais, exactement. Donc voilà, après je trouve l'idée intéressante. Mais je pense que nous, ce qu'on essaye de défendre, ce ne serait pas forcément ça. Ce serait plutôt comment on fait un objet dont l'impact soit le plus réduit possible, disons. Mais une partie de la réduction de son impact, c'est le fait que justement, il dure dans le temps.
D'accord.
Et qu'on n'a pas besoin de le reproduire.
D'accord. Voilà. Et justement, comment vous calculez ça quand vous allez fabriquer un livre ? Comment ça se passe concrètement au niveau des matières que vous allez choisir, au niveau du processus de conception ?
Alors, c'est un processus en permanente réflexion-évolution, en fait. Moi, je suis arrivé dans l'association il n'y a pas hyper longtemps non plus, donc ça peut être toujours moi qui étais dans les années 70, je n'étais pas né.
Oui, c'est quoi il n'y a pas hyper longtemps parce que...
C'était en 2022, donc c'est quand même assez récent.
Oui.
Donc ça se réfléchit en termes de format, déjà, c'est-à-dire que selon le format qu'on fait, du coup, la gâche papier qu'on appelle, c'est-à-dire le papier qui va être jeté par l'imprimeur, parce que ce n'est pas standard comme format, est plus ou moins important, donc ça c'est... Et puis ça a une logique de coût d'ailleurs, le format aussi, parce qu'il nous fait payer le papier forcément qui va gâcher. Donc nous, on paye pour un truc qu'on n'utilise pas, et puis surtout on jette du papier qui a été produit pour partir directement à la benne.
Parce que les rouleaux de papier pour les imprimeurs, c'est un format standard, c'est ça ?
Ouais, c'est un format standard et les machines sont standards. Et après à l'intérieur de ce standard-là, on découpe le livre en fait au format qu'on veut.
Un peu comme en pâtisserie quand on fait des biscuits, on essaye de gâcher le moins de pâte possible.
Exactement.
C'est ça l'idée ?
C'est exactement la même logique. Et donc il y a cette histoire de format. Après, c'est des formats qui ressemblent un peu aux formats qu'on a dans la vie quotidienne, A4, A3, etc. Voilà. Et donc, si on veut faire un format très spécial, il faut que ça ait un intérêt, en fait. Vraiment, que ce soit pas juste un intérêt commercial. Il faut que ça ait un intérêt par rapport à ce qu'il y a à raconter. Donc, nous, typiquement, on n'a jamais eu cet intérêt-là. Donc, on fait des formats assez standards. Ça se questionne aussi. Là, ce qu'on a fait, par exemple, récemment, on a une petite collection d'albums jeunesse. Et donc il y a le dernier qui est sorti ce printemps là, on parle des mares et des tritons. Et on avait un autre titre de la même collection qui était sur les hirondelles et leur migration et qui était épuisé.
D'accord.
Et donc du coup il y a aussi cette possibilité là qui permet d'économiser du papier et de l'argent. C'est d'imprimer en amalgame, on appelle ça. C'est-à-dire qu'en fait vu que c'est le même format, les deux bouquins, on imprime le nouveau et on réimprime l'ancien dans la même au même moment. Donc en fait il n'y a qu'un seul calibrage de la machine, etc., qu'un seul achat de papier, et tout ça permet de faire de l'économie de matière et l'économie d'argent aussi
Vous, je suppose que c'est comme en librairie, des économies d'argent et des économies écologiques sont liées.
Oui, complètement. Ouais, les deux vont ensemble. Du coup, c'est pour ça que c'est d'autant plus vertueux de faire des économies écologiques, puisque ça nous fait aussi économiser de l'argent.
D'accord. Et sur les matières utilisées, vous avez droit de regard ?
Oui, on choisit le papier.
oui.
qu'on veut utiliser. Alors après, sur conseil de l'imprimeur. Après, la difficulté qu'il y a sur le papier. En fait, nous, on essaie de choisir des papiers qui sont issus de forêts gérées durablement. Enfin, là, c'est tout un tas de labels. Donc,
Ces labels, est-ce qu'ils sont fiables?
C'est toute la question. C'est que ces labels, ils valent ce qu'ils valent. En fait, de mon point de vue, il y a deux questions. Déjà, c'est des labels... disons que c'est mieux que rien, mais bon, ça ne garantit pas non plus une qualité d'exploitation hyper durable. Enfin, comment dire, la question de fond, déjà, c'est des forêts gérées durablement, mais c'est des forêts d'exploitation. Donc déjà, est-ce qu'une forêt d'exploitation en soi, c'est-à-dire du bois vu comme une matière première à exploiter, est-ce que déjà, ce n'est pas une forêt...
oui, il n'y a pas de biodiversité. Voilà,
ce n'est pas une forêt spontanée, ouais. c'est pas, voilà, donc c'est déjà particulier. Mais après, on en a la nécessité, puisqu'on a besoin de ce bois pour produire du papier. Et après, l'autre difficulté, donc une fois qu'on choisit quand même ce qu'on peut de mieux dans la limite de ces labels qui valent ce qu'ils valent, c'est qu'en fait, le livre, et nous encore plus parce qu'on est tout petit, mais c'est une toute petite partie de l'utilisation du papier dans l'industrie. Et donc notre poids sur notre impact sur le choix que feraient les imprimeurs de quel papier, ou le choix même au-delà que ferait l'industrie papetière, il est extrêmement marginal. Parce qu'avec le papier, on fait du papier toilette, on fait des BA13, du placo, on fait tout un tas de choses. Et c'est comme toutes les matières premières, c'est un marché mondial avec des énormes acteurs et qui produisent les usines papetières. C'est des usines qui produisent des milliers de tonnes de papier par an. Et nous, là-dedans, on pèse que dalle, en fait. Donc, du coup, notre impact sur faire évoluer des pratiques de comment on crée du papier, il est hyper marginal. Donc, on a finalement... là où nous on peut intervenir, c'est plus sur comment on va fabriquer à la fin, une fois qu'on a le produit, c'est-à-dire le format, le tirage, c'est-à-dire pas tirer trop pour pas détruire, etc., plus que vraiment avoir un impact en amont. D'accord. Sur la chaîne de création du papier.
Et sur l'encre et la colle, par exemple, là vous avez peut-être plus de possibilités.
Sur la colle, moi j'avoue que c'est un sujet que j'ai pas du tout exploré, pour une raison aussi, c'est que nous, on fait un choix qui va dans cette logique écologique, mais au sens total du terme, c'est qu'on imprime à Montpellier. On est basé à Prades-le-Lez, on imprime à Montpellier, chez un imprimeur local. Ce qui coûte, j'imagine, parce qu'en vrai, j'ai jamais regardé combien c'était d'imprimer en Pologne, mais qui coûte forcément plus cher. Mais après, on imprime à 15 km de chez nous, et donc ça a un sens en termes de proximité transport, mais ça a un sens aussi en termes de proximité sociale, c'est-à-dire que c'est un imprimeur avec qui on travaille, on se voit, on vient dans les locaux quand ils impriment, décider ensemble du taux d'ancrage des couleurs, etc., etc. Et donc tout ça fait sens, mais il s'avère que cet imprimeur-là, il ne fait pas ce qu'on appelle le façonnage.
D'accord.
Le façonnage, c'est en fait, on imprime les feuilles du livre, après il les découpe. Et ensuite, il faut mettre la couverture autour. Et donc, eux, ils n'ont pas les machines pour faire ça. Donc, ils envoient chez d'autres gens qui sont des façonneurs.
D'accord.
Et donc, du coup, comment le façonneur travaille? Là, j'avoue que je ne sais pas. Donc, je les laisse faire.
D'accord. Et le façonneur est aussi à Montpellier ou...
Non, là, ça dépend. Ils en ont un en Espagne et un vers Dijon, je crois. Ça dépend. D'accord. Du bouquin, en fonction, ils envoient chez l'un chez l'autre.
Donc là, malgré une volonté de concentrer, on en parlera un petit peu plus en deuxième partie d'émission, malgré une volonté de concentrer les flux et de minimiser les transports, il y a déjà quelque part un premier transport qui est fait pour le façonnage.
Exactement, c'est que le bouquin en feuille non reliée, en fait, part chez le façonneur, puis revient en bouquin fini, quoi.
Ok. Petite pause pour nos auditeurs, je vous laisse découvrir le titre choisi par notre invité.
Avant que tout soit emporté. les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la salle épaisse et mon sang.
Vous écoutez Les Pluches Libres, nous sommes en compagnie de Romain Meynier des éditions Les Écologistes de Lezières et nous sommes en deuxième partie de cette deuxième émission sur l'écologie du livre. Romain, pourquoi avez-vous choisi ce titre, cette chanson à nous faire écouter? Je crois que l'artiste c'est Pomme, c'est
ouais,
ça?
Oui, l'artiste c'est Pomme. C'est une chanson que chantait ma fille à la chorale.
Oh.
Et elle a beaucoup chanté. Et, je sais pas, c'est joli, je trouve, j'aime bien.
C'est une chanson familiale en ce moment, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement.
Trop chouette. Merci beaucoup pour ce partage. Donc revenons à nos moutons, enfin revenons plutôt à nos livres. Mmh. Et nous parlions donc conception matériaux en première partie d'émission. Et il faut parler aussi des flux. Donc par flux, on entend le transport logistique dans le milieu du livre. C'est bien ça?
C'est ça.
Et donc là, on a un premier, plus gros impact et aussi peut-être le plus grand levier possible pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour limiter les pollutions.
Exactement. Et en fait, il y a la partie transport pour limiter les pollutions. Et même en bout de chaîne, derrière le flux, il y a aussi la question de la matière de fabrication, en fait.
Mmh.
Nous, c'est pas un sujet qui nous concerne très directement aux écologistes de Lezières. Parce que, comme disait en première partie, on a une distribution qui est pas mal locale.
D'accord. Comment moi, ça se passe exactement?
En fait, moi, je fais des tournées deux fois par an avec des livres dans ma voiture.
Très bien.
Dans la voiture du travail. Et je m'arrête chez les libraires et je leur dis, ben voilà, il y a ça comme nouveauté, je leur montre. Et après, éventuellement, est-ce que vous voulez reprendre, on appelle ça du réassort, des titres que vous avez déjà et que vous vendez bien.
Donc ça évite de doubler, c'est-à-dire il n'y a pas le rendez-vous, puis ensuite on commande et les livres arrivent, c'est lors du rendez-vous, si on veut un réassort plus les nouveautés, on les a directement sur place.
Exactement. Et c'est avec l'intérêt, alors ce que les gens ne connaissent pas forcément, et je ne sais pas si ça existe au-delà du monde de l'édition et de la librairie, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le retour.
Oui.
C'est-à-dire que quand un libraire achète un livre, en général, il a le droit de le retourner.
En cas d'invendu.
Voilà.
Cas nous, on espère le vendre, hein, sincèrement, oui. Hein, sinon on ne l'achèterait pas.
Oui, je me doute bien. Mais du coup, l'avantage de passer, c'est qu'en fait, le libraire peut prendre un risque, sachant que je vais repasser dans 6 mois, au pire, je repars avec. Donc ça peut lever un frein. Et après, cette histoire du retour, moi, je trouve philosophiquement, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet à un libraire de prendre un risque commercial sur un bouquin qui n'est pas le dernier prix Goncourt que tout le monde connaît.
Mmh.
Et donc du coup prendre un risque, sachant que si jamais en fait ce bouquin n'est pas vendu, malheureusement il pourra toujours le renvoyer, parce que, enfin ça vous connaissez mieux que moi, mais l'enjeu pour le libraire, c'est la place dans sa librairie.
Oui, oui,
donc,
la gestion des stocks.
Donc avoir plein de bouquins qui prennent de la place mais qui partent jamais, ça empêche d'en faire rentrer d'autres, etc.
Tout à fait.
Donc c'est intéressant, sauf que moi ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une perversion de ce système là du retour par les grands groupes de l'édition, en fait, qui du coup essaient de négocier, mais dans une négociation asymétrique avec les libraires, pour leur imposer ce qu'on appelle des mises en place, c'est-à-dire plein de livres d'une nouveauté qu'ils veulent essayer de vendre, qui prennent plein de place du coup chez le libraire, et puis ils vont en vendre moins que prévu, du coup ça fait beaucoup de retours, donc ça fait du flux aller et du flux retour. Et après, c'est beaucoup de retours, souvent ça finit au pilon, c'est-à-dire à la destruction, c'est-à-dire que, je sais pas moi, un groupe achète, va tenter telle nouveauté pour essayer d'en vendre le maximum, il va inonder les librairies le plus possible,
tout à fait.
Ce qui lui permet d'écraser le coût de production de son bouquin, parce qu'il en produit
en place,
beaucoup. Finalement, ça marche pas si bien que ça. Donc on en renvoie, je dis un truc au pif, mais un tiers, imaginons. Et bon, ils estiment que le livre a fait son temps, parce qu'après il faut toujours produire de la nouveauté de leur point de vue, et donc ils détruisent ce qu'ils ont produit. Et donc ça fait et en fait la logique économique est pensée comme ça, c'est-à-dire que dès la production du livre, on sait qu'on va en détruire, enfin ils savent, parce que après les petits éditeurs fonctionnent pas comme ça, qu'ils vont en détruire un certain nombre. Donc on a double impact du transport aller et retour, et en plus l'impact d'un produit qu'on a produit pour en fait le détruire.
Et vous, comment vous fonctionnez donc?
Alors nous, on essaye déjà, pour des raisons bassement économiques, mais aussi pour des raisons philosophiques, de produire à la nombre d'exemplaires qu'on va vendre, enfin qu'on espère vendre, et dans le sens, quand je dis vendre, dans le sens diffusé, enfin que les gens le lisent, quoi. Alors on n'a pas toujours été bon là-dessus dans le passé, hérité de certains surstocks un peu, parce que c'est la limite de l'associatif aussi, où des fois on c'est pas forcément bien calibré, mais en tout cas l'idée c'est ça, et on n'a quasiment pas de retour en fait.
D'accord.
Moi quand je vais chez un libraire, mon intérêt c'est pas qu'il mette des bouquins absolument sur ses étagères, c'est qu'en fait il prenne des bouquins qu'il va pouvoir vendre à ses clients, à lui, parce que sinon ça fait une relation entre moi et le libraire qui est pas du tout intéressante, parce qu'en fait il le contraint à prendre des choses qu'il va pas vendre. Ça m'arrive, on a des bouquins nous très spécifiques par exemple pour les animateurs nature, qui sont vraiment pour un public professionnel. Des fois un libraire il découvre le catalogue, il dit ah, bah, je vais prendre ça, je tiens à vous être sûr, parce que si vous avez la clientèle pour, c'est juste traîner dans votre étagère, quoi. Et donc je lui vends pas de force, enfin de force, je dis bah oui prenez-le, parce que je sais qu'au final il le vendra pas. Et voilà, du coup on a très peu de retours.
D'accord. Donc c'est une gestion des flux, je dirais pas simplifiée, réfléchie finalement, et une gestion économique aussi quelque part et philosophique comme vous l'avez souligné.
C'est ça.
Ok. Et ça, ça entre, si je me trompe pas, il y a une réflexion qui est menée en ce moment en Occitanie autour de l'écologie du livre. Il y a une charte qui a été signée par les différents acteurs.
Oui, il y a une réflexion qui est menée à l'échelle de l'Agence régionale du livre, qui est une institution publique qui est financée par la région. Et après, il y a deux associations. Il y a une association d'éditeurs régionaux et une association des libraires régionaux qui se sont réunis et qui ont travaillé ensemble sur une charte de l'écologie du livre, du coup, de pratiques, en fait, d'engagement à des bonnes pratiques, que ça soit en librairie, donc sur, alors ça, je vais pas trop en parler parce que c'est pas mon domaine, mais aussi en édition sur le choix des papiers, etc., le volume des tirages et tout. Et après, une partie d'engagement réciproque qui concerne les deux. Donc, c'est assez intéressant comme démarche, cette charte-là. Et après, ça, c'était une première étape, c'était en 2024. Et le travail continue, du coup, soutenu par l'agence publique. Et donc là, il y a une réflexion qui se mène sur la question justement de ces flux de transport et de pourquoi pas, enfin d'imaginer, comme ça a existé à une époque apparemment pas si lointaine, de créer des entrepôts en fait de stockage régionaux. Mmh. Parce qu'en fait, cette histoire de flux là, aller-retour, après, c'est des flux qui sont centralisés globalement en région parisienne dans des méga entrepôts.
Oui, alors ça, pour nos auditeurs, ça s'appelle finalement le transport.
Oui.
Donc le transport dans la chaîne du livre, en fait, vous allez avoir la commande qui est passée par le libraire, qui part en message informatique, qui est ensuite centralisée vers l'entreprise qui va distribuer un certain nombre d'éditeurs, qui va préparer cette commande et l'envoyer sur une plateforme logistique qui s'appelle la plateforme Prism. Et en effet, tout ça se passe à Ivry, donc en région parisienne. Sauf pour certains éditeurs, certains distributeurs, comme Dilisco, qui sont pas loin d'ici. Vous avez aussi Hachette, oui, en effet, c'est une grosse machine, mais ils ont quand même un entrepôt à Lyon pour pouvoir servir au mieux les librairies dans le sud de la France. Donc ça, c'est quand même sympa. Et puis ça évite aussi, nous en librairie, le gros enjeu, c'est le temps sur la commande. Puisque les commandes, c'est de la gestion. Et forcément, ça représente de l'argent pour nous. Si un livre met trop de temps à arriver, on risque de perdre potentiellement une vente. Voilà, donc là-dessus, forcément, nous, ça nous intéresse d'avoir des comptoirs de distribution, des comptoirs de vente à destination des professionnels en région, comme cela se faisait avant. Même moi, avant que j'exerce. Et comme cela ne se fait plus, mais donc la réflexion a été lancée. Elle a été lancée par qui?
Alors c'est plutôt les acteurs éditions qui sont un peu à l'origine de ça. Après, ça nécessite de l'argent en fait, enfin, un soutien de la puissance publique. Et c'est là que pour l'instant c'est un peu compliqué, mais bon, en tout cas il y a l'idée d'essayer d'aller vers ça. Mais après, là où ça nécessite un soutien, c'est aussi dans l'analyse un peu fine de la pertinence. C'est-à-dire que ça paraît logique comme ça, d'évidence, c'est-à-dire ben en fait, si on décentralise un peu les stocks, eh ben, ça fera moins de transport, plus de réactivité. Après, c'est peut-être à analyser finement pour voir si c'est vraiment le cas, parce qu'en fait, on a un système de transport national qui est extrêmement centralisé déjà.
Oui.
Et est-ce que finalement, ce fonctionnement Prism par Ivry, même si ça paraît complètement absurde, alors nous, comme je disais, c'est pas le cas, parce que souvent, on livre directement, mais sinon... imaginons quelqu'un qui, si on ne livrait pas directement, ça pourrait être une librairie à Montpellier qui nous commande un livre, oui. Il part à Ivry, puis il revient à Montpellier, alors qu'en fait, on est juste à côté.
Exactement.
Donc ça paraît absurde. Mais après, par contre, il n'arrive pas tout seul, en général. Donc c'est là aussi qu'il y a, c'est quand il passe par Ivry, qu'il arrive dans la librairie, il est rassemblé avec d'autres livres de la commande du libraire qu'il n'a pas commandé que chez nous, mais aussi chez d'autres éditeurs. Donc il y a aussi, je n'arrive pas à trouver le terme, mais...
Un principe de distribution qui centralise les commandes et qui permet de créer une masse, en fait, d'éviter les commandes unitaires et donc une pollution et un surcoût trop prononcé.
Donc il y a une logique d'économie d'échelle, etc., de rassemblement des commandes et tout, qui peut-être finalement est pas la pire. Donc moi, je me dis là, donc c'est intéressant cette réflexion sur... mais du coup, ce qui serait intéressant, c'est de la mener vraiment en analysant son si ça ferait une vraie différence d'impact. Et après, pour revenir sur le fonctionnement du flux, du transport aller-retour, à des destructions, etc., moi, il me semble que là où il y aurait vraiment à agir, c'est en fait sur comment on réduit le flux. Et notamment, justement, cette logique économique qui fait qu'en fait, c'est plus rentable d'un point de vue capitalistique de produire beaucoup de livres pour les envoyer partout, inonder le marché, quitte à en détruire une partie, et ben c'est comment on agit là-dessus pour que ça ne soit plus rentable et que ça contraigne en fait à moins produire, du coup donc moins d'impact matière au départ, à moins de transport. Et ça serait, et là, je pense que là, il y a un vrai levier
oui,
en fait, d'action qui peut changer.
Là, je pense que l'interprofession s'en est aperçue il y a très longtemps. C'est-à-dire qu'on a une diversité éditoriale donc, que les libraires préservent du mieux qu'ils peuvent, c'est leur mission, mais cette diversité... elle est tellement conséquente que finalement, certains livres sont produits, ils ne voient jamais, entre guillemets, je caricature, mais ils ne voient jamais l'étagère d'une librairie. Donc là, c'est la conception du catalogue éditorial qui est en jeu. C'est bien comme ça
oui,
que vous le voyez.
Oui, complètement. Ouais, c'est déjà arrêté.
C'est repenser le livre avant qu'il devienne livre, finalement.
C'est ça. C'est à notre échelle à nous, éditeurs, déjà. Est-ce que quand on fait un livre, qu'on regarde bien qu'il n'existe pas déjà, quelque part, on fait un peu différemment, mais qui finalement raconte la même chose, enfin, qu'on ait vraiment quelque chose à raconter de particulier qui vaut la peine de produire ce livre et de l'envoyer, etc. Et après, du côté, parce qu'il y a vraiment quand même deux échelles différentes. Il y a le groupe et il y a l'éditeur, il y a le petit éditeur. C'est du côté du groupe. Comment on rend, en fait... comment on les contraint à changer un peu leur modèle pour faire des livres qui vont défendre, qui vont devoir défendre en fait.
Et sur du long terme.
Et sur du long terme. Et pas du livre un peu jetable, c'est pas si c'est le terme, mais en tout cas, un principe de fonctionner que sur la nouveauté, que c'est la nouveauté qui fait le chiffre.
Tout à fait. Ouais. Alors on arrive en fin d'émission. Est-ce que vous avez un conseil lecture pour nos auditeurs?
Alors, un conseil lecture, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse. Nous, on a, on a sorti, donc, comme je disais tout à l'heure, notre dernière nouveauté. Là, on a une collection d'albums jeunesse qui sont, je trouve, en toute non-objectivité, très bien fait. Qui sont des bouquins qui se lisent à l'endroit puis à l'envers. Et donc, c'est une astuce qui permet d'illustrer le côté cyclique du monde vivant. C'est-à-dire qu'on lit l'histoire dans un sens en entier, puis on retourne le livre, on a la suite de l'histoire. Donc, par exemple, qui avait très bien fonctionné, c'est sur les hirondelles qui viennent de ressortir. Oui. Donc, dans un sens, l'hirondelle fait sa migration jusqu'en Afrique et dans l'autre sens, elle revient. Voilà.
Ouais, c'est tout très chouette.
Ouais. Et donc là, il y en a un nouveau qui est sorti ce printemps, qui est sur le triton. Et donc ce triton, dans un sens, on suit son cycle de l'œuf qui va devenir... jusqu'à ce qu'il devienne un triton adulte, il sort de l'eau, etc. Puis il revient dans l'eau pour se reproduire et faire le suivant. Et dans l'autre sens, quand on retourne le livre, on explore en fait les autres espèces, animales et végétales qui vivent dans une mare. Et donc c'est très beau graphiquement. Et après, ça s'adresse à des gamins à partir de 5 ans, quoi, voire moins. Et puis on apprend plein de choses. Et l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'après on peut aller, surtout que là, tant qu'il fait encore pas trop chaud et qu'il y a encore de l'eau dans les mares, on peut aller explorer pour de vrai et retrouver dans une mare près de chez soi
ce qu'on a vu dans le bouquin. C'est merveilleux. Merci beaucoup Romain, merci pour toutes ces explications. Le sujet est encore vaste. Pour nos auditrices et auditeurs, il s'agissait de la dernière émission de cette saison radiophonique. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour d'autres rencontres littéraires. Bel été à tous.
L'épluche livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter en fait les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange des cornichons, de la moutarde, du pain de beurre.